Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International, dans votre émission et notre émission qui fait le tour de la planète football. Après cette cinquième journée de Ligue des Champions, notamment avec ses matchs de poule, alors le PSG premier de sa poule, en tout cas pour l'instant, en arrachant le match nul hier soir à Londres, les Parisiens ont montré qu'ils étaient au niveau d'Arsenal, même si une fois encore ils n'ont pas gagné, à cause notamment d'erreurs et de maladresses. L'avenir européen cependant sourit aux joueurs de ce PSG version Unai Emery. Ailleurs en Europe, à noter la défaite du Bayern Munich, la deuxième en Ligue des Champions et la deuxième de la semaine. Résultat, les Colchoneros prennent la tête du groupe après avoir aligné les victoires. Les seuls d'ailleurs à accumuler 15 points en 5 journées. Merci au GG. Merci à Griezmann et Gamero. Les GG flingueurs, peut-être pourrait-on les surnommer. Et puis un match fou plein de beaux buts, dont un de Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Benfica et suspense maximum dans ce groupe. Goodbye Jürgen Klinsmann, le sélectionneur allemand des États-Unis n'a pas survécu à la mauvaise campagne de son équipe, mal embarqué à ce stade en tout cas, sur la route menant à la Russie pour 2018. Un autre goodbye, c'est lui qui nous le donne par contre, l'éternel Reds, Steven Gerrard, tire sa révérence à 36 ans, dont 17 passés sous le maillot de Liverpool. Invité dans ce studio aujourd'hui, nous avons Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour à tous.
Hervé Penaud, notre ami de l'équipe. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous.
Et puis Gilles Verdez. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Eric Mamrut, il est rentré de Londres. Il est vient d'arriver. Bonjour.
Bonjour. Yes. À tous.
Et puis Olivier Pron, lui, il est rentré du Rwanda. Bonjour.
Oui, mais il note qu'à chaque fois qu'Eric Mamrut se déplace à Londres, il revient avec une qualification ou un résultat positif. Ça n'est pas donné à tout le monde.
N'est-ce pas ?
Je vous remercie.
Radio Foot, c'est parti. On attendait du spectacle sur la pelouse de Londres hier soir. On espérait un match de Ligue des Champions de niveau entre les Gunners et les Parisiens. On espérait surtout que le PSG hausserait son niveau de jeu, talent qu'il ne force pas toujours les fins de semaine en Ligue 1. Et nous avons aimé apprécier le match d'hier soir qui a abouti à un match nul mais favorable au PSG, 2-2 face à Arsenal. Retour sur cette rencontre que vous avez donc suivie pour RFI, Eric, avec Bruno Constant.
Thiago Motta qui monte, la passe en profondeur pour Blaise Matuidi sur son pied gauche, la frappe, la reprise, Cavani, et c'est l'ouverture du score du Paris Saint-Germain à la 18e minute. Et c'est bien donné pour Maxwell, cette fois il vient
précis.
Attention, ce ballon il est perdu, et Ozil qui va peut-être la tenter dans la fin de frappe pour Alexis Sanchez. Oh la faute, il y avait penalty.
Et c'est Olivier Giroud qui va frapper ce pénalty.
Face à Alphonse Areola de son pied gauche, à contre-pied, l'égalisation d'Arsenal juste avant la pause. Avec Arsenal, encore et toujours, Alexis Sanchez dans l'axe qui trouve là-bas Jenkinson qui va pouvoir centrer à ras de terre un pied parisien. Attention, contrôle, le but de casquette contre son camp du Paris Saint-Germain en faveur d'Arsenal. Oui, oui, oui.
Ouais, beaucoup de réussite quand même, hein, les londoniens. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour marquer et ça réveille l'Emirates Stadium.
Un coup de pied arrêté, pourquoi pas, la solution peut venir de là, avec Atem Ben Arfa de la droite vers la gauche. Voilà, c'est fort pour Lucas, la tête, et c'est l'égalisation du Paris Saint-Germain. L'interception de Lucas, très remuant, qui tacle pour Edinson Cavani, qui a du champ, qui va se présenter devant Spina. La louche ratée d'Edinson Cavani. Avec Lucas sur le côté droit, le centre pour Cavani, la tête.
Oh là là, à côté,
je la voyais dedans, tout le monde la voyait dedans.
Un centre magnifique de Lucas, hein, du côté droit, enroulé.
C'est terminé ici à l'Emirates Stadium, mission accomplie pour le Paris Saint-Germain.
Eric, vous qui étiez dans ce stade hier, racontez l'Emirates, parce qu'on dit que c'est une ambiance assez froide, c'est ce que disait d'ailleurs Bruno assez clairement. Certains tweetaient que à 2-2, c'est-à-dire bien avant la fin, les spectateurs partaient déjà du stade.
Très froid,
Très froid, les gens arrivent au tout dernier moment, le coup d'envoi est donné, le stade est à peine plein, ça se garnit au fur et à mesure. Bon, c'est vrai que la première mi-temps a été inexistante pour les Gunners, donc le public n'a pas eu matière à s'enthousiasmer, il ne l'a pas fait du tout, on ne le sentait pas d'ailleurs prêt à le faire, il ne soutenait pas du tout son équipe, il regardait placidement, on entendait plus le cop parisien d'ailleurs.
Ils étaient 3000.
À la télé ça s'entendait parce qu'ils ont toujours une même ritournelle, la même rythme. Et on entendait ça tout le temps, on se disait mais le match est où?
Il n'y a que...
Et Bruno Constant le soulignait, ouais. Depuis qu'il a ce stade, c'est assez froid et ça s'est un peu emballé quand même quand Arsenal est rentré enfin dans sa partie en deuxième période, ça s'est un peu plus animé, mais effectivement on n'avait pas la méga ambiance qu'on pouvait avoir avant dans les stades anglais.
Oui, c'est bizarre parce qu'on vend toujours, voilà, mais c'est dû à quoi?
On est souvent déçus, hein. Moi je me souviens être allé à Manchester United, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'ambiance, on est souvent déçus, j'ai l'impression ces dernières années dans les stades anglais.
Ils sont trop grands.
C'est surtout la sociologie du public qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des copes avec des fans, des places populaires, notamment debout, qui n'étaient pas chères du tout, avec les dérives qui ont été engendrées, le hooliganisme. On a changé complètement. Et maintenant, c'est vrai que les places à l'unité ou les packages, les abonnements sont hors de prix. Donc, c'est des gens des CSP+, et qui, ce qu'on appelait en France les costards cravates, quand les joueurs de l'équipe de France disent arrêtez avec ces gens-là, c'est des gens qui ont les moyens, mais qui sont moins fans.
Je pense qu'il faut aller en championship maintenant. Ou en troisième division, le Championship, c'est la deuxième division. Là, vous avez des vrais clubs de quartier avec des supporters qui sont des supporters de père en fils, de grand-père en père. Enfin bref, là, il y a de l'ambiance.
Avant le match Celtic, vous l'avez vu, tous les stades, ils chantaient.
Incroyable.
Tous les stades.
Non, ils ont chanté tout le match alors qu'ils ont perdu 2-0.
Ils ont chanté quelque chose que c'est la première fois de ma vie que je le vois. Une équipe qui joue chez elle, qu'elle est menée 3-0, elle est encouragée par le public pendant toutes les premières 45 minutes. L'équipe, avant de sortir du terrain, il était au milieu du terrain à applaudir les supporters.
Et c'était le Besiktas.
Et la deuxième mi-temps, ils ont fait 3-3. Mais c'est la première fois qu'une équipe encouragée, il s'était mené 3-0 au bout de 30 minutes de jeu.
Bon, ça a servi à quelque chose, puisque finalement, ils arrivent à égaliser. En tout cas, ce match, évidemment, on va s'y attarder. On va s'attarder surtout sur les Parisiens. Des Parisiens, Marco Verratti l'a dit à votre micro, Eric, plutôt heureux d'atteindre son objectif.
Dans les deux buts qu'il a marqué Arsenal, on a fait deux cadeaux. Et c'est ça, c'est un peu le football. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit voir la prestation. Je pense qu'on a fait une bonne prestation, on a fait une grande prestation d'équipe. On a défendu tout ensemble, quand on avait le ballon on était bien, on a eu beaucoup d'occasions, je pense que ça c'est un match qui donne confiance à toute l'équipe. C'est un bon résultat pour nous parce qu'il permet que la première place est dans notre main. Si on gagne le dernier match, on est première et c'est notre objectif.
Alors, le Paris Saint-Germain fait 2-2, le Paris Saint-Germain ouvre le score, le Paris Saint-Germain est en tête de sa poule, mais peut-on dire honnêtement que le Paris Saint-Germain doit se satisfaire de ce match et dire que c'est un bon résultat en dehors des voies officielles, Eric ?
Au vu des circonstances, je pense que oui quand même, parce que mine de rien, même si ça aurait pu tourner au vinaigre, cette partie qu'il maîtrisait totalement...
Mais ça aurait dû tourner à l'huile peut-être, c'est-à-dire qu'il gagne.
Ah, c'est joli, je ne connaissais pas
cette expression. Je prends le contre-pied de ce que vous dites. Mais vous dites tourner au vinaigre, j'imagine, ça aurait été perdre.
Effectivement, c'est vrai qu'en fin de partie, Cavani, il a deux occasions énormes, ils auraient pu l'emporter. Mais enfin, il faut se rappeler qu'il maîtrise totalement la première période. Le pénalty offert, selon moi, grosse boulette, double boulette de Krikoviak, pénalty, ça relance totalement Arsenal, qui en profite pour mettre un deuxième but heureux, offert, là encore, avec Verratti qui parle de cadeaux. Et là, PSG aurait pu craquer parce que là, ça commençait à pousser sérieusement. Arsenal était regonflé et poussait sur les buts parisiens. Et là, c'était le moment, le test était là pour PSG. Est-ce qu'ils allaient tenir? Est-ce qu'ils allaient résister et recommencer à dominer cette partie? Ils ont réussi à renverser la situation finalement. Ils n'ont pas cédé. Ils ont réussi à obtenir l'égalisation. Ils auraient même pu l'emporter. Mais Cavani rate toujours deux, trois occasions. Bon, là, il en a mis une. Bon, c'est son.
Mais c'est ça qui m'a étonné à moi, c'est qu'après avoir marqué le deuxième but, Arsenal
a laissé tomber.
Il s'est mis à défendre l'avantage. Au lieu d'essayer, parce que quand tu marques un deuxième but, celui qui est en face, il a pris un coup. Il a pris un coup de la gueule.
Il a dit, 77e minute, il reste encore effectivement 13 minutes de jeu.
Ils sont revenus en arrière, ils
ont essayé.
Mais Arsène Wenger a dit que physiquement, ils n'y étaient plus. L'équipe avait tout donné au retour des vestiaires.
Gilles.
Mais moi, ce qui m'a surpris quand même sur tout le match, c'est, on peut critiquer le PSG, mais c'est l'absence totale pour moi d'engagement, de rythme, d'intensité, de niveau voulu par la Ligue des Champions d'Arsenal. C'est une terrible déception. Pas de créativité, pas de puissance. Alors, je vous rejoins en disant, face à cet Arsenal-là, PSG pouvait gagner. Mais honnêtement, le nul 2-2, il vaut victoire. Il vaut première place.
Mais c'est pas une victoire. Oui, mais Gilles, on attend toujours une victoire du Paris Saint-Germain.
2-2 Arsenal, sur l'ensemble des deux matchs, vous les devancez. Oui,
mais
c'est
vous
comme
dites
si
qu'ils
vous
étaient pas au niveau.
Sur l'ensemble des deux matchs, ce PSG-là, moi, j'ai commenté le match aller, Eric, le match retour. Hier, j'étais devant ma télé, j'ai le sentiment de voir presque le même match. C'est-à-dire une domination de Paris qui aurait dû, dans les deux cas, l'emporter. On l'avait dit mi-septembre, mais on s'était dit, ce sont des matchs de septembre, les équipes sont pas encore rodées. Le niveau était meilleur, sans doute hier, mais la finalité était la même. C'est-à-dire que le PSG aurait dû, dans les deux cas, prendre trois points. À l'arrivée, il se qualifie. Enfin, il se qualifie. En tout cas, il passe devant Arsenal. Ouais. Et c'est l'essentiel. Mais il y avait mieux à faire encore en termes de résultats.
Bon, je suis assez d'accord avec Gilles. Au final, bon, ils sont qualifiés. Ils sont premiers du groupe. On peut pas non plus demander 50 000 choses. Simplement, il y a des choses à régler. Ça, c'est évident. On sent que le PSG doit être meilleur que ça. Mais d'un autre côté, vous êtes rendu compte aujourd'hui que d'un côté, le Paris Saint-Germain fait partie à l'aider. 6, 7, 8 plus grosses équipes européennes, ce que n'est plus Arsenal. Arsenal, c'est une équipe de 8e de finale de Ligue des Champions. Ce qu'ils font chaque année, ils font 2e de leur groupe et ils sont éliminés parce qu'ils ont des gros tirages, Barcelone, etc. Et vous avez eu la différence entre une équipe aujourd'hui de très haut niveau européenne comme Paris Saint-Germain et une bonne équipe de niveau européenne comme Arsenal. Et Arsenal, c'est un peu comme les équipes anglaises en général. On a vu Tottenham aussi contre Monaco. Tottenham, c'est une équipe invaincue en championnat d'Angleterre qui a perdu deux fois contre Monaco. Ce qui prouve quand même que les équipes anglaises, et elle l'avait déjà montré l'année dernière, sont pas non plus d'un niveau exceptionnel par rapport à la Ligue des Champions.
Le PSG a concédé 5 tirs seulement. Ça veut dire qu'Arsenal a été quasiment inexistant.
Un seul cadré, le pénalty.
Voilà. Donc ça veut dire que le PSG n'a pas été mis en danger, notamment parce que sa charnière centrale a été éblouissante. Ça, quand Hervé dit que le PSG fait partie des 5-6 meilleures équipes d'Europe, tout à fait. Mais sa charnière centrale, c'est dans les 2-3. Hein. Bon, il y a Juventus, Bayern peut-être, qui ont des grosses charnières. Mais
Real aussi.
Thiago Silva, Marquinhos, c'est très très fort.
Mm-hmm. Et puis l'intérêt, c'est qu'il y a un vieux, un jeune. Enfin, il y a quelque chose là qui marche très très bien. Entre les deux.
On revient à la toujours la même. Pour quelle raison Paris il est parmi les meilleurs? C'est le budget. C'est l'argent. En plus des 500 millions.
Carlos, Arsenal, Manchester City a de l'argent depuis longtemps et n'a jamais rien réussi
en Ligue des Champions. Arsenal, non. Hein. Arsenal, il n'y a pas autant d'argent que Paris.
Manchester City a de l'argent depuis 10 ans et Manchester City n'a jamais fait mieux que. Enfin, sauf l'année dernière, une demi-finale. Mais enfin, en Ligue des Champions, c'est quand même.
Ça faisait longtemps. Oui, mais attention, que City, il n'a pas d'histoire dans l'Europe. Jamais. Même de l'époque. Des 60 et 70, il n'a jamais été une grosse équipe en Europe.
Ils ont gagné une fois, je crois, une Coupe des Coupes. Mais Carlos, le contre-exemple, c'est Manchester United, qui a un énorme budget et qui, pour le moment, n'est pas au plus haut niveau européen.
Oui, mais avec Van Gaal, il...
Ouais. C'est Van Gaal qui a un peu cassé le jouet.
Oui, enfin, mais bon,
cassé le jouet de l'après Ferguson.
Là, il y a de l'argent.
Des difficultés de travailler sur l'après Ferguson. Ibrahimovic a quand même dit, je suis allé dans un club qui est moins fort
que
le club que j'ai quitté. Donc ça veut dire beaucoup de choses, surtout de la part d'Ibrahimovic.
Oui, en général, il dit ce qu'il pense.
Il savait où il allait.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit.
Oui, oui. Non, mais il voulait être en première ligue, lui. Il voulait quelqu'un qu'il désirait, en l'occurrence Mourinho. En tout cas, ce PSG, est-ce que vous avez évidemment beaucoup parlé avant le coup d'envoi de la composition d'équipe, notamment il y avait la place de Mathieu. Tu dis, est-ce que vous diriez que Unai Emery a fait preuve d'audace, Eric? Il avait un peu déjà fait au match aller, je sais.
Il avait fait la même chose au match aller au lieu de Ben Arfa.
C'était s'adapter à Arsenal.
Apparemment, contre moi, j'ai pas vu le match contre Nantes samedi, mais apparemment, la rentrée en jeu de Ben Arfa n'était pas convaincante du tout. Donc, ouais, il préfère le mettre en joker pour l'instant. Et c'est vrai que quand il est rentré, Ben Arfa, dans les 20
c'était
dernières
plus
minutes,
convaincant.
Il a plutôt bien joué. C'est lui qui offre le but à Lucas.
Ben Arfa, la journée du championnat, il ne fait pas une passe de but quand il rentre
Contre Nantes?
Contre Nantes?
Je crois qu'il aurait pu en faire une, mais il n'y a pas but.
Il a été refusé pour hors-jeu. Il fait une superbe ouverture, refusé pour un hors-jeu.
Mais Matuidi, on voyait bien que ce n'était pas sa place, véritablement. Il revenait souvent décroché au milieu, il venait aider. Il se perdait un petit peu, je monte pas. Bon, finalement, sur le but, la passe qu'il met, c'est un peu son jeu traditionnel de montée, de percussion, mais c'est qu'il peut faire habituellement. Mais il n'avait pas le rôle d'ailier gauche, véritablement.
Oui, mais tous les meilleurs terrains qu'il a à Paris Saint-Germain, le plus dangereux, c'est toujours Matuidi. dit. Hein. Mmh. Verratti n'arrivait même pas au but. Même pas 18 mètres arrivait
non,
Verratti.
C'est pas son rôle en même temps.
Il a 22, 23 ans. Ouais. Mota, il va pas arriver. L'autre qu'il a joué, le Polonais, non plus. Alors, à la fin, heureusement que Matuidi, lui, il a un changement de rythme. Il prend son côté, son couloir, et c'est pas la première fois qu'il fait marquer un but. Mmh. Hein.
Justement, alors parmi les bons sur le terrain, on gardera Krikoviak pour la fin, mais il y a Lucas. Lucas qui a été désigné homme du match. Est-ce que pour vous, c'était enfin, je dirais, un bon Lucas, parce que ici, on le vilipende souvent, c'est un peu le sujet de Dominique Sévrac.
C'est un Lucas à double vitesse, une première mi-temps difficile, délicate,
il l'a
moyenne.
Reconnu lui-même d'ailleurs, après, ouais. Il a dit j'étais nul.
Et puis une seconde époustouflante avec des accélérations une fois que les espaces se sont libérés. Voilà, le problème, c'est que quand il y a encore de l'organisation tactique, de la compacité chez l'adversaire, Lucas ne passe pas. Une fois que les espaces s'ouvrent, il est là. Mais c'est vrai que par rapport à ces prestations dont on a l'habitude de vilipender le contenu, là, sur le plan de l'efficacité, il est quand même redoutable. En plus, il aurait pu offrir la victoire sur une passe décisive à la fin.
Il aurait pu marquer un coup franc splendide.
Oui. Non, c'est quand même un bon match de Lucas.
Oui. Carlos, vous l'avez trouvé bon, vous, Lucas ?
Je pense, comme lui, la première mi-temps, il s'est effacé et la deuxième, il a fait la différence.
Ça vous surprend ?
Les attaquants, vous savez, il y a des fois qu'on se trouvait bien dans un contexte, peut-être que la première mi-temps, il trouvait pas l'espace, ses coéquipiers, il le trouvait pas non plus. Et les attaquants, c'est spécial, hein.
Et oui. Moi, je l'ai trouvé très lucassien, c'est-à-dire comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est bon et mauvais dans le même match. Lui, il a plusieurs matchs dans son match. Bon, et son but, faut quand même pas dire, mais c'est une erreur d'Iwobi, hein, qui est énorme, parce que là, il n'a pas à mettre la tête pour essayer de la contrer, parce que la balle, de toute façon, il n'aurait jamais eu but. Alors, c'est pour ça qu'on donne une passe décisive à Ben Arfa. Enfin, il a fait un centre sur un corner. C'est bien de pouvoir tirer un corner, mais enfin, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas ce que j'appelle.
Il y en a qui tirent pas toujours bien les corners.
Ces derniers temps, Paris Saint-Germain, on pouvait quand même être très critique sur la manière de tirer les corners à deux, ce qui ne donnait rien. Je me souviens de PSG Marseille, c'était quelle
année? Non, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte dans les calculs, parce que les entraîneurs sont toujours là-dedans, dans les calculs, qu'en fait, il n'y a jamais de but quasiment marqué sur corner. J'entendais l'autre jour une stat, ça doit être 1,5% de buts marqués sur corner. Donc, d'une certaine manière, comme on marque jamais sur corner, ils essayent de trouver des solutions. Si on le joue à deux, si on le joue à trois. Et sur ce corner-là, moi, je mets toujours une grande différence sur un passeur entre la passe dans le jeu et la passe sur coup de pied arrêté. C'est deux choses différentes. Ça veut dire qu'on sait bien tirer les coups de pied arrêté. Je me souviens à Marseille, Lucho le faisait très bien, mais vous visez des zones, vous visez pas des joueurs. Donc c'est pas tout à fait la même chose.
Non, deux choses. D'abord, je suis pas d'accord avec Hervé sur les corners, parce que le corner de Ben Arfa pour Lucas, il est magnifique. Il a l'espace dégagé et tout ça. Et on se plaint assez de la qualité de centre et de la qualité de coup de pied arrêté déficiente dans le championnat de France pour souligner quand il y a du très bel ouvrage.
Je lui enlève pas, il a beaucoup de pieds arrêtés.
Voilà. Et deuxièmement, sur Lucas, vous trouvez sévère quand vous dites bon, mauvais. Si vous dites mauvais, très bon, je suis d'accord. Mais bon, mauvais, on a l'impression d'un match moyen. D'ailleurs, vous lui avez mis 7 dans votre journal, ce qui souligne quand même. Ce qui souligne quand même que vous jugez qu'il a été aussi très, très bon.
Parce qu'il a été décisif.
C'est ce qu'on lui demande aussi.
Mais être décisif. Et c'est vrai que c'est un but. Bon, bah, c'est un peu comme le but marqué par Verratti. C'est comme ces buts-là. Bon, ça vient, c'est un peu particulier. Ouais.
Faut aussi rappeler que les notes dans l'équipe, c'est un peu l'école des fans. On les comprend pas toujours.
Ah, si.
Carlos.
C'est toujours très, très bien mis.
Carlos, vous qui êtes un des grands buteurs de notre championnat de France et des grands buteurs. Vous arrivez à comprendre que Cavani réussit à marquer un but, ouvre le score et ensuite rate deux, comme on dit dans le football, caviar. Non,
ce qui me donne l'impression de Cavani, c'est que, parce que c'est pas la première fois, j'aime beaucoup Cavani.
C'est face à face avec les gardiens.
J'aime l'époque qui jouait avec Forlan, Suarez et Cavani, que c'est celui qui s'est sacrifié le plus. Plus que Forlan et plus que Suarez. Je l'aime beaucoup, Cavani. Mais ce qui me donne l'impression, c'est que des fois, ça lui manque la dixième de seconde d'avoir le sang-froid et bien réfléchir comment il faut finir. Il se précipite trop. Ouais. Et alors, là, il rate les occasions de but.
C'est un joueur de première intention. C'est un type qui marque sur une tête, tac, sur une reprise instantanée. Ouais. Mais dès qu'il faut faire quelques pas, toucher le ballon deux, trois fois, on a l'impression que ça
disjoncte. Vous rappelez le match de l'année dernière? En coupe, je crois que c'était contre Manchester City, qu'Ibrahimovic, quand il a eu le temps de réfléchir à un ballon qu'il a volé, qui s'est présenté devant le gardien, il a raté le but de 5 mètres. Vous vous rappelez quand il est parti tout seul? Parce qu'il a eu le temps de réfléchir.
Et Cavani, c'est pas la première fois qu'il rate un face-à-face devant un gardien, malheureusement. Hier soir encore. C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On reviendra un petit peu sur ce match juste après la pause.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans la deuxième partie de cette émission avec Carlos Bianchi, Hervé Penaud, Gilles Verdez, avec Éric Mamrut et Olivier Pron. On en était à ses performances personnelles particulières dans le collectif du Paris Saint-Germain. On va s'arrêter deux minutes, c'est sur Krikoviak qu'on ne voit pas souvent titulaire dans cette équipe. Ce joueur voulu par Unai Emery, qui hier a fait des erreurs, mais à la sortie du match, Unai Emery a voulu le défendre.
Et l'adaptation à cette équipe, c'est un process. Et ce process, c'est pour le temps. Krikoviak, il a une caractéristique pour jouer, il aide à l'équipe. Et après, pour comment il se va adapter à l'équipe, pour les joueurs de l'équipe. Et après, l'équipe qu'il connaît bien, comment jouer avec Krikoviak. Krikoviak, c'est un grand joueur, c'est un joueur important. Il aide à l'équipe, il est sûr qu'il va aider pour le futur. Il va améliorer la prestation avec l'équipe, avec cet joueur.
Il va s'améliorer, nous promet-il.
Alors, pour qu'un entraîneur défendre personnellement un joueur qui a fait un mauvais match, c'est que ça va très très mal. Sinon, il reste dans le collectif. Là, il est obligé de le défendre. C'est sa recrue, c'est son choix. C'est son erreur de le mettre au coup d'envoi à ce poste-là.
Oui, parce il défend que c'est... son choix tactique en
et...
même temps.
Non, mais il est obligé. Oui. Mais il va vite... Emery, il va pas rester longtemps solidaire d'un Krikoviak comme ça. C'est pas possible. Parce que sinon, il risque de tomber avec lui. Là, le pénalty n'a pas de conséquence sur le résultat final. Mais la prestation de Krikoviak, elle est calamiteuse.
Vous le connaissez de Séville, Krikoviak.
Oui, mais il était quand
même... c'était pas un joueur de football, disons, ouais, pour créer le football.
Mais au moins, il avait de l'activité.
Il y avait de l'agressivité pour récupérer le ballon et tout ça. Mais ça, dans une équipe comme Paris, que tout le monde y joue bien, parce que même celui qui n'a pas joué hier, Rabiot, avec le ballon au pied, il est très fort, sont tous les quatre des bons joueurs de football, balle au pied. Alors lui, il débarque ici, il dit, qu'est-ce que je fais? Je vais la rendre ronde ou je la rends carrée.
Mais son rôle, c'était là, d'être sentinelle devant la défense, donc pas forcément de créer, mais de
oui, mais
stopper
les centraux se libèrent l'espace pour celui qui est devant la défense pour mener le jeu un petit peu. Mais il n'a pas les qualités techniques. Et d'ailleurs, moi, je peux vous dire, je ne citerai pas le joueur, mais qui a joué contre lui, et il jouait, c'était contre Nancy. Et il disait, mais les joueurs du PSG, par moment, ils n'osaient même pas lui donner la balle. Et il sentait qu'il y avait un décalage. Parce qu'à un moment, techniquement, bah, c'est tellement faible par rapport aux autres que c'est compliqué.
Oui, parce que, comment tu dis, le mi-défensif, c'est la douane, disons. Il faut que ce soit la douane avant les deux arrière centraux.
C'est une douane pour eux.
Mais au moins, tu dois savoir, Casemiro, la première chose qu'il a fait Zidane quand il a pris le Real Madrid, il a mis Casemiro comme arrière, comme demi-défensif.
C'est ce que faisait déjà Benitez.
Et Modric. Oui. Parce que tous les deux, ils jouaient football. Ouais. Casemiro, mais quand Casemiro, il a les ballons dans les pieds, il joue bien au football aussi.
Est-ce qu'il peut s'améliorer, ce Krikoviak, selon vous?
Oh, bah, 40 ans, oui.
Mais ça dépend. Je
peut-être rendre des services encore au stade de Reims.
Non, vous êtes méchant.
Il en a déjà rendu.
Mais c'est un joueur qui a fait ses preuves quand même. Mais il faut savoir dans quel rôle. Voilà. Paris Saint-Germain, il a besoin de lui.
Mm-hmm. Il a coûté 30 ça. Millions quand même. Hein.
Ouais. Combien? Non,
30 millions
pourquoi
d'euros.
Si peu.
Mais ça peut être le relais de vestiaire du coach aussi. C'est-à-dire que le Emery est arrivé, il a pas d'homme à lui. Il faut qu'il ait des gens, même s'il n'en fait pas un titulaire, il faut quand même qu'il ait des relais, sinon il va être très esseulé, quoi. Donc il lui faut des gens avec qui pouvoir discuter, échanger. Et c'est vrai que je suis d'accord avec notamment Hervé, le niveau technique est extrêmement faible.
Mais attention qu'il vient pour prendre peut-être la place de quelqu'un qui est un référent.
C'est vrai.
Comme Mota, hein.
En tout cas, il fait une énorme boulette au moment où... C'est marrant parce que dans les secondes qui précèdent, on vient d'entendre tout à l'heure Eric et Bruno Constant, je me souviens hier avoir suivi ça à la télé, on était en train de s'extasier devant le jeu du Paris Saint-Germain. On était « Oh, quelle séquence, oh, c'est beau, oh, ça joue !» Et bing, la cagade. Et la double cagade, non, même.
Voilà la difficulté. C'est quand vous êtes dans un effectif où ça joue techniquement très très fort et très très fluide. Ben, à un moment, il faut pas que y ait un relais qui casse. Et là, le problème d'un Krikoviak, c'est qu'il sait qu'il est inférieur aux autres. Vous savez, il est pas débile, il sait très bien quelles sont ses qualités. Il se pense être un joueur de très haut niveau, ce qu'il est certainement. Mais par contre, il a pas ces qualités-là. Ça fait que quand ça joue techniquement, à un moment, vous voulez quand même faire comme les autres parce que vous allez pas casser tout. Mais d'un seul coup, vous avez pas cette qualité technique. On parlait un peu de Cavani devant le but. On se précipite. Ben là, c'est un peu la même chose. Mais pas devant le but.
Il a tweeté après le match pour reconnaître son erreur, un peu pour s'excuser. Quand même, c'est assez rare. Hein.
Eric, il y a une chose encore hier avant, pour terminer sur cette partie, c'est que Serge Aurier n'a pas pu jouer le match. Et le président El Khelaifi s'est un peu énervé à la fin avant de quitter Londres, mais en disant qu'il n'avait pas du tout été soutenu dans le problème de visa qui n'a pas été accordé, parce que l'UEFA n'avait pas soutenu en fait le Paris Saint-Germain dans la démarche d'essayer de changer la situation.
Oui, alors après, je ne sais pas si ça sert à grand-chose maintenant de râler. Mais peut-être, effectivement, ils veulent se couvrir pour les huitièmes de finale, maintenant, pour pas que ça se reproduise dans un autre pays. Donc, effectivement, on avait vu en conférence de presse, juste la veille du match, Unai Emery et Thiago Motta, très, très diplomate et pas du tout hurler au scandale, justement. Et on se disait, bon, l'affaire est enterrée, ils l'ont avalé, sans problème. Mais le président, effectivement, en a remis une couche, et à mon avis, c'est pour se prévenir pour l'avenir, parce que maintenant, c'est fait, quoi.
Gilles. Alors moi, je ne comprends pas du tout de quel droit Monsieur Nasser Al-Khelaifi se permet de juger et de critiquer le gouvernement britannique, qui prend une décision en son âme et conscience au vu de fait de justice, et qui délivre des visas comme bon lui semble. C'est surréaliste.
Non, mais c'est de l'ingérence. Est-ce que j'ai lu que le visa, il a été accordé?
Et qu'après, il a été retiré.
C'est ça que je comprends pas. Si toi, tu t'es marié, d'accord?
Ouais.
Alors si tu me donnes la visa, trois jours après,
non, mais ils ont le droit, ils ont sans doute le droit de le retirer. Mais
je pense
que le visa avait été accordé
avant qu'il y ait le jugement. Et je vous rappelle qu'en Angleterre, si en France l'appel est suspensif, ça n'est pas le cas en Angleterre.
Et puis une chose que je ne comprends pas de la part de El Khelaifi, c'est qu'il en appelle à l'UEFA. Mais on sait très bien que les instances internationales, la FIFA notamment, interdit toute ingérence du politique dans le sportif. On a eu des fédérations africaines qui ont été condamnées pour ça. Alors on sait que c'est un peu ridicule, ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours ingérence, mais c'est pas grave. Toujours est-il qu'il y a interdiction. Donc vous n'allez pas demander à la FIFA ou à l'UEFA, en l'occurrence, de venir s'ingérer dans les affaires de la politique intérieure anglaise pour gérer le cas de Serge Aurier. Ça, c'est pas possible.
Bon. En tout cas, on verra si Serge Aurier, s'il y avait une autre équipe anglaise sur la route du Paris Saint-Germain, ce qui pourrait se passer. Justement.
Mais l'appel aura été rendu d'ici là.
Manchester City.
Ça peut mettre longtemps, je crois.
Pour la justice.
En tout cas, on verra si la première place du Paris Saint-Germain est acquise ou pas. Ça sera lors de la dernière journée. Le Paris Saint-Germain recevra Ludogorets au Parc des Princes, alors que Arsenal ira jouer à Bâle. Alors, le Parc Saint-Jacques a beau être très très chaud, les Gunners vont peut-être faire la différence face à ce FC Bâle, en tout cas le FC Bâle du niveau actuel. Ailleurs en Europe, il y a eu évidemment d'autres matchs lors de cette cinquième journée. Des choses notables dont on va parler. La défaite du Bayern à Rostov, les 15 points de l'Atlético et puis les 6 buts de la rencontre entre Besiktas et Benfica. Et les Bavarois ont perdu, alors pour la plus grande joie de Rostov, parce que c'était leur première victoire en Ligue des Champions, mais surtout, ils ont perdu toute illusion de terminer premier. Le Bayern battu en Bundesliga, déjà plus premier de la Bundesliga, et qui enregistre leur deuxième défaite en Ligue des Champions. C'est surprenant. En tout cas, on est peut-être en droit d'être surpris, même si, allez, c'était une équipe A prime, presque B. Il n'y avait pas Neuer et il n'y avait pas certains grands joueurs du Bayern.
Vous êtes le Bayern Munich. C'est pas une question de voir Neuer, pas Neuer. Quand vous êtes le Bayern, vous avez Rostov.
Dit que c'est un mur dans les
buts. Défaite quand même en championnat, c'est la deuxième défaite de suite. On sait comment ça se passe au Bayern en plus. Les grands anciens commencent à ruer dans les brancards. Mm-hmm. Ça va bouger de partout parce que là, Ancelotti, quoi qu'on en dise, il est en train de faire face à vent de face, c'est le cas de le dire. Vous êtes deuxième de la Bundesliga derrière un club qui était quand même en Ligue 2 l'année dernière. Le Munich. Et le Bayern n'en accepte pas ça. Et donc, ils ont intérêt à faire un bon résultat contre Leverkusen ce week-end, parce que sinon, ça peut bouger quand même du côté de Ancelotti. Ils ne vont pas le virer, évidemment. Mais attention, c'est assez instable.
C'est difficile de prendre la relève de Guardiola au Bayern, Gilles?
Mais disons que là, il a quand même des soucis défensifs. Alors, Neuer était blessé, mais on voit que quand il essaye de faire tourner un peu, ça ne marche pas. Il doit faire face à des blessures. C'est compliqué. On a l'impression que son style de jeu, s'il en a un, parce qu'Ancelotti est un entraîneur très pragmatique, il a voulu s'inscrire dans la continuité de Guardiola, mais il y a peut-être un peu d'usure de l'effectif. Est-ce qu'il y a encore une motivation extrême? Il y a des questions qui se posent.
Tout à fait d'accord.
Carlos.
Tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une équipe qui arrive à l'usure, qu'il est
un peu en fin de cycle, comme on dit.
Et je pense qu'il y a certains joueurs et certains autres qui sont arrivés, qui font pas si bien que les autres que j'étais, parce que Thiago Alcantara, ils l'ont payé 30, 40 bâtons.
On va leur filer Krikoviak.
Aujourd'hui, il est manqué Vidal. Et Vidal, il est 10 fois meilleur que l'autre. Mm-hmm. Parce que quand Vidal, il est là, il est là.
Ouais.
Tu te rends compte que Vidal, il est là.
Justement,
par contre,
compliqué sans
ça
lui.
Lui manque depuis 2-3 matchs. Il n'a pas joué contre Borussia Dortmund. Il n'a pas joué hier. Mm-hmm. Attention, hein.
Ah oui, effectivement. La route est compliquée pour le Bayern. Bon, évidemment qualifié, mais ça sera donc deuxième de sa poule. Et là,
face au Paris Saint-Germain.
Voilà. Il risque, oui, oui, ça risque d'être compliqué, finalement.
Il peut avoir des matchs intéressants, ah, hein, oui. Atlético Madrid.
Ils auraient dû perdre alors à Arsenal, Eric,
on se le demandait, justement, moi, après.
Ça, tu le sais qu'à la fin, au moment du tirage au sort.
Il y a quand même l'énorme avantage quand vous terminez premier de recevoir un match retour en huitième de finale. Et ça, c'est quand même intéressant.
Sur l'année dernière, je crois qu'il y a 6 sur 8. Ouais, et sur l'année 8. D'avant, 7 sur 8. Et ça deux fois, c'est le PSG.
Je crois que les dernières statistiques montrent qu'en huitième de finale, il vaut mieux recevoir effectivement au retour. Que... Et, voilà.
Oui, toujours.
Et les premiers de groupe se qualifient effectivement.
L'année dernière, c'est 7
fois sur 8. Si, Carlos, je vous jure.
Une anecdote. Nous avons eu la chance de gagner 4 fois la Coupe des Champions en Amérique, hein, la Copa Libertadores. Mm-hmm. La seule fois qu'on a joué le 12e match chez nous,
vous avez perdu.
Contre les Mexicains, on a perdu 1-0 et on a gagné au pénalty.
Ça, c'est les Mexicains.
Oui, mais après les autres trois fois, contre Sao Paulo, contre Palmeiras et contre Santos,
le
match a arrêté chez eux et on a gagné chez eux. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas une certitude. Hein.
C'est juste une histoire de statistique. Alors, pour le moment, ça
oui, ça se peut. On
statistique contre anecdote, finalement. Vous choisirez, cher auditeur. En tout cas, dans ce groupe D, eh bien, le Bayern est donc deuxième. Il n'a que 9 points, alors que l'Atlético Madrid a fait le plein de points. Alors, il faut dire que cette équipe, en 5 matchs, donc 15 points des 5 victoires, grâce à son duo de choc, on peut le dire, Griezmann-Gamero, il charme même leur entraîneur, Diego Simeone.
Kevin Gamero a été impliqué dans quelques bonnes occasions de but en première période. Le but qu'il marque, c'est un peu sa marque déposée. La vitesse, la précision, une contre-attaque pure. Kevin et Antoine combinent bien avec de la vitesse. C'était un but important individuellement et collectivement. Cela nous a permis d'ouvrir un match de plus en plus difficile à résoudre.
Carlos, quand on est entraîneur, argentin en plus, est-ce que c'est le rêve d'avoir un duo de buteurs comme Gamero et Griezmann?
Avoir des bons attaquants, ça fait... C'est plus facile de préparer une équipe à défendre qu'à attaquer. Si tu as des bons attaquants, tu peux défendre qu'eux, ils vont faire la différence. Regardez-vous, on parlait tout à l'heure du Bayern de Munich. Robben, il ne joue pas. Ribéry, il ne déborde jamais. Et Lewandowski se trouve tout seul contre toute la défense adverse. Il ne marque plus. Lewandowski, c'est le même que ça fait 6 mois en arrière, qui marquait 2 buts par match. Mm-hmm. C'est le même. Mais pour quelle raison? Parce qu'il est tout seul. Il est tout seul. Alors, si vous avez des... Attention qu'Atlético Madrid, il a eu la chance de toujours de compter avec des très bons attaquants. De l'époque de Falcao.
Toujours, c'est
l'époque...
vrai.
Alors, quand vous avez des attaquants, alors vous pouvez préparer l'équipe défensivement. Je sais très bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui va la mettre au fond.
Mais ce qu'il y a, c'est que Gilles, cette équipe de l'Atlético, justement, on en parlait, ils ont été battus par le Real et vertement, hein, parce que c'était 3-0 quand même durant le week-end. Ils tracent leur route en Ligue des Champions et moins bien en Liga. C'est pas un paradoxe?
C'est spectaculaire en Ligue des Champions. Hein. Alors, ils sont premiers de poule. Il faut dire que le PSV est ridicule. Un point sur les 5 matchs, il n'y a plus rien au PSV. Mais quand même...
Même Rostov est devant eux.
Voilà, c'est une vraie équipe peut-être de coupe, l'Atlético. Peut-être que sur la longueur d'un championnat, là, cette saison...
C'est peut-être qu'ils cherchent cette saison aussi.
Exactement, ça va être difficile. Mais sur une épreuve comme la Ligue des Champions, ce sera une équipe à surveiller jusqu'au bout. Attention, et c'est vrai que Gamero Griezmann, c'est très bon.
Attention que l'Atlético, il n'a jamais gagné la coupe.
Hein. Mm-hmm, bah oui, justement. Deux finales perdues.
On peut faire un parallèle... Le chemin en Ligue des Champions et en championnat, c'est Leicester. Leicester est à l'agonie en championnat anglais et survole son groupe de Ligue des Champions.
Et dis-moi.
Enfin, un petit groupe de Ligue des Champions.
Oui, petit, c'est pas le grand groupe.
C'est ça aussi. Le groupe est le plus faible.
Oui, bon, j'aimerais bien vous y voir.
Eh ben, tiens, l'année prochaine.
Allez hop, je m'y remets. C'est enregistré. Yop Loca.
En tout cas, on aura une espèce de finale sans être une finale. Ça sera quand même un match à regarder, sans doute, à début décembre, entre le Bayern et l'Atlético, parce que ce sera un petit peu la revanche. Peut-être aussi, le Bayern, le moment de marquer son terrain, là.
Tu m'excuses, Annie? Je préfère Real Madrid, Borussia, Dortmund.
Oui, moi aussi.
Parce que là, là, ça va jouer la première place.
Ah là. Oui, là, c'est autre chose. Ah,
ouais,
là,
l'autre, ça y est, c'est fait.
Ouais. Premier, oui, mais c'est pas le même jour, hein, donc vous pourrez voir l'un un jour et l'autre le lendemain.
Non, le lendemain, je regarde Rostov, Zagreb.
Non, non, Lyon-Séville, Lyon-Séville.
Ah, Lyon-Séville, c'est un bon match. Oui, ah oui.
En Turquie, on a donc eu un match de folie entre le Beşiktaş et Benfica. Score final donc 3-3, on en parlait tout à l'heure. Et donc, suspense relancé. Mais est-ce que le Benfica est passé à côté de sa qualification?
C'est une faute professionnelle, il hein, faut être sérieux. Ils ont la balle de 4-0
je vous
en plus.
Le dire.
Non, non, mais là, non, mais à 3-0 avec balle de 4-0, même s'il y a des buts extraordinaires, le contexte turc après, des supporters déchaînés, une équipe qui revient en grâce, c'est pas possible. Ça, alors ça arrive en finale de Ligue des Champions.
Ouais, arrivé,
la, voilà, ça arrive, mais là, non, pas sur ce match-là. La balle de 4-0, ils doivent la mettre. C'est là la faute pour moi.
Mais, peut-être que oui, Carlos. Parce qu'après, ils sont finis 3-3.
Oui.
Mais même à 3-0, un champion, il ne peut plus revenir.
Ah oui?
Le troisième but qui marque Beşiktaş, il y a eu une faiblesse, une tendresse. Ils ont regardé tout faire, les Turcs.
Bah, c'était tellement
beau. Qu'ils ont planté le troisième but. C'est incroyable. Si tu vois le but, il va de droite à gauche, il est en centre. Les Portugais, ils regardaient jouer.
C'est le but de Vincent Aboubakar.
Aboubakar, c'est le troisième.
C'est le troisième.
Oui, oui, il l'a regardé jouer. Mais oui. Le plus beau, c'est il y a assise ou une reprise de volée phénoménale.
Oui, c'est quoi, le 3-1.
C'est le 3-1, c'est quoi?
Oui, c'est le 3-1. Oui, c'est le premier but du Beşiktaş qui est magnifique.
Le 3-3, c'est un but que les Portugais, ils regardaient jouer les Turcs.
C'est un but de PlayStation.
Mais ce qui est génial d'un autre côté, c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. C'est qu'à un moment, il y a des retournements de situation absolument incroyables. C'est totalement improbable à mi-temps. C'est effectivement la finale de Ligue des Champions. Milan AC, on parle pas de Beşiktaş, Benfica. Respect, c'est un sport, il peut se passer des trucs, des miracles entre guillemets, et c'est génial. Oh, c'est souvent dû à des fautes, c'est souvent dû, il y a quelque chose, évidemment, il s'est passé quelque chose, mais il n'empêche que c'est aussi ce qui fait la beauté de ce
stade,
sport.
Ce stade s'y prête, moi j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années pour un match avec Marseille, c'est un très vieux stade. La légende raconte que quand les supporters du Beşiktaş chantent, on les entend chanter de l'autre côté du Bosphore.
Ah, mais moi, c'est l'ambiance.
En Asie et en Europe, et il y a vraiment une ambiance exceptionnelle.
Mais moi, je pense que c'est l'ambiance,
exceptionnelle. C'est un très vieux stade.
Pas de l'autre côté du channel.
Eric,
alors là,
à Paris, c'est vrai, c'est vrai.
T'as pas été à Boca?
Extraordinaire.
Jamais. Tout doit y aller.
Non, mais
moi, j'y suis allé.
Non, mais ils font de l'angélisme en disant c'est beau, mais vous imaginez que là-dessus, Benfica peut être éliminé de la Ligue des Champions.
Ils ont
un dernier match super dur contre.
Mais oui, très bien, Gilles. Et on s'en félicite. Ce sont nos adversaires à l'issue UEFA. Ce sont nos adversaires à l'issue UEFA. On vient de creuser un vrai trou.
Et l'avantage, Gilles, c'est que même s'ils ont fait cette erreur, tu dis professionnel, ils ont quand même un dernier match pour s'attraper. Oui. Tout n'est pas fini. Là, ils ont tout dans
le point dans le groupe. Exactement. Naples à 8 points, Benfica 8 points, Beşiktaş 7 points, Dynamo de Kiev.
Pardon, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont 2 points.
Qu'est-ce qu'ils ont fait à Naples? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Naples? Naples
0-0
à Naples 0-0. Ça veut dire qu'Anaan, ils sont éliminés.
Qui avait déjà éliminé?
Non, non. Non, non. Je dis, s'ils font un partout, Benfica-Naples.
Oui, oui, la différence particulière.
Ils qualifient Naples. Et alors, Messica, après, s'il va jouer à l'extérieur, s'il gagne, il reste dehors.
Mais Naples va jouer au Benfica.
Donc, Kiev n'a plus rien à jouer. Donc, Beşiktaş peut gagner.
Et Monaco, extraordinaire.
Monaco, c'était le jour d'avant. Allez, parlez-moi de Messi, parce que vous avez admiré Messi hier soir.
Parce que Messi, il a marqué 9 buts en la phase des groupes. Il a marqué 9 buts en la phase des groupes. Ça veut dire qu'il ne molle pas, lui. Il ne laisse pas tomber le soulier, le ballon d'or, parce que Ronaldo l'année dernière, il a marqué 11 buts dans les groupes. Et lui, il a marqué 9, il est marqué contre, il marque contre Mönchengladbach. Il va marquer 3.
Encore?
Et après, je reviens le lendemain.
D'accord, ok, on vous attend.
Sur 10 tirs, je crois, en plus, c'est un 9 buts sur 10 tirs. C'est incroyable comme taux de réussite. C'est incroyable.
Alors là, pour le coup, c'est pas Cavani. Lui, il tremble pas.
En tout cas, c'était. Le but qu'il a marqué hier, difficile. Le ballon, il est tombé comme ça, il a frappé.
Les petits côtés, c'est vraiment, franchement.
Le Celtic, en tout cas, s'est régalé du spectacle offert par Messi, puisque c'était du côté de Glasgow.
Vous me permettrez juste de dire que j'adore Barcelone, mais les cartons jaunes que prennent Neymar et Rakitic, qui leur permettent, volontaires quasiment ou totalement, qui leur permettent donc de remettre
à zéro
leur casier pour les huitièmes de finale. Ça, c'est pas totalement digne d'un très grand club comme Barcelone.
Tu dirais pas que c'est de l'intelligence.
Je dirais pas que c'est de l'intelligence. Non,
c'est tout à fait normal.
C'est de l'anti-sportivité. C'est contraire à l'esprit sportif quand même, Carlos. De volontairement prendre un carton jaune.
Avec la main, tu prends quelqu'un du maillot aussi, c'est anti-jeu.
Je serais pas étonné que du
côté mais bon, ils font exprès. Voilà, pour moi, c'est pas totalement le fair play que
vous leur mettez un carton jaune.
Je leur mets un carton jaune, voire rouge.
Très bien, Gilles.
I just simply want to say thank you to all of you for an amazing ride over the last five and a half years. It's been an amazing experience. It's been a huge, huge honor to lead the national team over that amount of time.
Amazing experience. Alors, merci de tous vos messages. Ce fut une fabuleuse expérience. Ainsi parle sur Internet. Il s'adresse directement à ceux qui lui envoient des messages. Eh bien, Jürgen Klinsmann, le sélectionneur des États-Unis, démis de ses fonctions. C'était en début de semaine. L'ancien international allemand a été renvoyé au bout de 6 ans de travail, remercié en raison des mauvais résultats enregistrés avec son équipe nationale en éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde. Récemment, c'est 2 défaites de trop. Alors, c'était les 2 premiers matchs hein, des éliminatoires qui sont très longues.
Ah bah là-bas, oui, là-bas, ça dure un paquet de temps. Mais je crois que c'était la fin de l'histoire depuis quelques temps déjà. On sentait que c'était un peu cassé. Il y avait un ressort qui était cassé. Bon, bah voilà, il fallait bien que ça s'arrête à un moment. 6 ans, c'est pas mal pour un sélectionneur.
Attendez, il a quand même un bon bilan, Klinsmann.
5 ans.
Il arrive en 2011.
Donc, il a quand même un. Oui, effectivement, il a fait du bon boulot à la tête des États-Unis. Peut-être qu'à un moment, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils reprennent les vieux pots.
Voilà, quoi, hein. Alors c'est Bruce Arena qui en fait l'avait précédé et qui voilà. Lui succède aussi.
C'est ça, bon, ben voilà, moi ça me paraît assez logique, mais parce qu'il me semblait que depuis quelques temps, de toute façon, c'était plus l'amour fou. Et on avait parlé à une époque d'ailleurs de Klinsmann, son nom circulait sur certains clubs européens, grands clubs européens et même certaines sélections. Mm-hmm. Donc voilà, c'était la fin d'une belle histoire pour
peut-être
lui.
Peut-être qu'au voilà. Gabon, on pourrait penser à lui.
Je ne sais pas ce qu'il viendrait faire.
C'est juste une plaisanterie.
Gilles, ils sont quand même en difficulté hein, dans leur poule qualificative. Ça ne va pas être évident parce que le niveau est assez homogène.
Alors, ce qui est amusant, Gilles, ça vous l'aurez remarqué vous aussi, c'est que ils ont perdu sur leur propre territoire une pelouse qui leur porte chance souvent aux États-Unis face au Mexique et c'était 2 jours après ou 24 heures après l'élection de Trump.
Absolument, donc c'était en plus un match symbolique. Hein, ouais. Mais c'est vrai que
mais il paraît que les Mexicains quand même avaient posé un mur devant la France.
Et la deuxième défaite fait mal et d'autre part, ça met un coup de projecteur négatif sur la Major League Soccer. Alors avec des stars étrangères qui arrivent quasiment en retraite. Et un réservoir américain qui ne permet pas quand même d'aller au plus haut niveau. Parce que là, il y a un doute sur la sélection.
Alors d'abord, les défaites, on rappelle, c'est 2-1 face au Mexique aux États-Unis. C'est un but à la dernière minute, donc c'est d'autant plus cruel. Puis après, il y a quand même le 4-0 infligé par le Costa Rica. Et parmi les reproches...
Costa Rica, on s'en souvient, la dernière Coupe du Monde. Ils sont allés bien plus loin que les États-Unis.
Ils ont 0 points. On rappelle que c'est un groupe de 6. Les 3 premiers sont qualifiés directement. C'est un peu moins l'école des fans que chez vous en Amérique du Sud. Enfin, quand même 3 sur 6 qualifiés directement.
Carlos, vous réagissez pas à ça. Une attaque directe.
Et le quatrième,
5 fois.
Et le quatrième,
5 fois.
Le quatrième jouera un barrage. Donc, c'est quand même.
C'est pour être éliminé, faut le faire.
Ouais, voilà. Il y a quand même, la porte est ouverte. Mais parmi les reproches qu'on fait à Klinsmann, justement, c'est de ne pas avoir piocher dans le réservoir de la MLS, mais d'avoir au contraire cherché à imposer des joueurs à double nationalité venus du championnat allemand, des joueurs inconnus venus d'Allemagne, et on lui reproche justement de ne pas s'être servi de la MLS. Quand on prend Bruce Arena, on fait l'inverse. Bruce Arena, il vient d'être 5 fois champion ces dernières années de MLS avec Chicago, avec les Los Angeles Galaxy. Il a 65 ans et c'est quand même lui, Bruce Arena, qui les avait emmenés. 65, j'avais vu moi. Il les emmenait en quart de finale de la Coupe du Monde en 2002. Ouais. C'est le meilleur résultat des États-Unis jusque-là.
On parle des États-Unis, on parle de la MLS. Eh bien, il y a eu un autre adieu. Alors celui-là, c'est volontaire, hein, puisque il l'a fait de son propre chef, et c'est Steven Gerrard qui aux États-Unis, eh bien, a annoncé après son dernier match, qui était le 7 novembre. Alors lui, il jouait en MLS avec les Los Angeles Galaxy.
Le club de Bruce Arena.
Justement, et c'était contre les Colorado Rapids. Ils ont perdu leur finale, leur demi-finale
de conférence.
Et du coup, eh bien, il s'en va. Steven Gerrard. Alors, un petit clin d'œil quand même, parce que malheureusement, vous parliez tout à l'heure d'histoire et de faits sportifs. On se souviendra de celui-là, même si c'est un peu négatif.
Oh, Gerrard slip. Denver Barr onto it. Barr against Mignolet here for Chelsea. And Barr scores. Chelsea 1. Steven Gerrard, the captain, slipped. And Denver Barr has popped up with another crucial Chelsea goal.
qui s'en souvient.
Oui, mais là vous,
allez,
êtes
vous
êtes dur.
Allez, un quiz.
Vous êtes dur parce que de Gérard, c'est pas ça.
Donc Gérard, c'est la Ligue des Champions 2005.
Ah, exactement.
On parlait tout à l'heure. Ouais. Gilles en a parlé. Le Milan AC à Istanbul. Tiens, on retourne à Istanbul. Qui mène 3-0 à la mi-temps. Ouais. Et puis Gérard qui marque le premier but 3-1. Et puis 3-3. Et puis finalement Liverpool qui s'impose.
Contre
ça, c'est le fait d'armes.
Contre une équipe italienne.
Ouais. Contre une équipe italienne, le Milan AC.
Mais la voix italienne de toutes.
Mais là, c'est symptomatique. C'est tout à fait d'accord. Cette équipe n'a pas gagné le titre depuis 90. Gérard arrête sa carrière sans jamais avoir été champion. Il a gagné toutes les coupes possibles.
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est le seul titre qui manque à son palmarès. Malheureusement, champion d'Angleterre, c'était face à Chelsea. Et c'est finalement même pas Chelsea qui sera champion cette année-là, parce que ça sera Manchester City.
Alors, c'est quand même une très belle histoire. Moi, ça me gêne.
17 ans à Liverpool.
Voilà. Moi, ça me gêne que ce soit pas arrêté à Liverpool. Alors, je comprends, il a été prendre l'argent aux États-Unis. Mais franchement, ça a pas ajouté à sa gloire. J'aurais aimé qu'il reste à Liverpool, qu'il y finisse et puis qu'il rentre dans le staff, etc. Parce que c'était le joueur emblématique. Je trouve que ça aurait été, c'était peut-être la dernière histoire totale. Bon, il y a Totti. Mais la dernière histoire totale d'amour éternel entre un joueur et un club. Et là, il l'a rompu.
Un petit bémol. Il avait failli partir à Chelsea. Il avait fait un petit peu la guéguerre parce qu'il voulait beaucoup plus d'argent. Et c'est, à un moment, Liverpool a dit, bon, bah, allez, on va te donner un paquet pour que tu puisses rester. Mais il avait failli partir pour aller à Chelsea. Mais moi, je suis moins d'accord avec lui. Je trouve que c'est bien qu'il s'ouvre un peu. Sort de Liverpool. Tu vas voir le monde et Los Angeles.
Enfin,
c'est quand même génial.
Joueur. Et donc, juste deux chiffres.
Vous êtes un mercenaire.
710 matchs avec Liverpool.
Non, je suis un voyageur.
186 buts inscrits. C'est un club où il est arrivé. Il est né dans la banlieue de Liverpool. Il est arrivé, il avait 8 ans. C'était quelques temps après la catastrophe d'Hillsborough, ouais, qui avait fait 96 morts. Mm-hmm. Parmi les 96 morts, il y avait son petit cousin qui avait 10 ans. Il est resté quand même très attaché. On se souviendra longtemps de ses adieux au stade d'Anfield et de l'émotion qui était la sienne avec ses enfants dans les bras. Super joueur, super gars. 114 sélections avec l'équipe d'Angleterre quand même. 3 Coupes du Monde. Bon,
et Lampard,
voilà.
Il est très loin de lui?
Parce que je lui pense aussi, qu'il est beaucoup, un peu plus loin. Peut-être pas en nombre de sélections, mais
il a gagné
pas
plus de championnats.
Ouais. Ah oui,
effectivement.
Gérard avait été un des protagonistes possibles d'un Ballon d'Or. Il lui manquera ça aussi.
Il était troisième. Voilà, 2005,
c'est un poste compliqué. Voilà, mais c'est un joueur ultra emblématique de ce qu'a été le foot anglais ou de ce qu'est le foot anglais.
Voilà, de ce qu'a été le foot anglais et la fidélité à un club, ce qui est, vous l'avez bien souligné, Gilles, de plus en plus rare. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs.
C'est la fidélité d'une femme, Olivier. Si, ça c'est pas
rare. C'est une base.
Merci aussi à Jean-Pierre Bessière qui m'a aidé à préparer l'émission. À la réalisation, il y avait Guillaume Cloquin. On se donne rendez-vous dans le Café des Sports. Merci.
Fidèle à la vie.